Aujourd'hui, on va parler d'anticipation. Alors, je vais pas vous mentir, il m'a fallu un certain temps pour savoir où commençait la science-fiction et où s'arrêtait l'anticipation. C'est un peu comme quand je demande à quelqu'un quel est son genre de musique et qui me répond « J'écoute un mélange d'afrobeat, de dubstep avec un peu de folk progressif. » Si je relance pas, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que je sais pas du tout de quoi il parle. Heureusement, j'ai vu le film de Civil War d'Alex Garland, le réalisateur de 28 jours plus tard et d'Ex Machina, qui incarne parfaitement ce qu'est l'anticipation. L'anticipation, c'est l'approche banlieue de notre époque. Un monde situé à 400 mètres du nôtre. C'est un demain qui aurait en quelque sorte déjà commencé aujourd'hui. Dans son film, Garland nous fait suivre le road trip de 4 reporters de guerre dans les États-Unis en pleine guerre civile. C'est âpre, sans concession, et j'insulte pas l'avenir, mais je pense que ça fera partie des films les plus intéressants de cette année 2024. Alors, assurément aussi, c'est un film qui sera clivant, particulièrement aux États-Unis, car il est extrêmement facile d'y voir une critique du Trumpisme. Pourtant, Alex Garland n'explique jamais ce qui a motivé cette guerre civile. C'est le spectateur tout seul qui suppose, en fonction de ses convictions à lui. Mais à l'écran, on voit juste un pays déchiré de l'intérieur. Et pour moi, c'est bien là la force de ce récit d'anticipation. Parce que selon Garland, la fin du monde n'arrivera pas forcément avec un virus, des zombies, ni même avec une catastrophe environnementale due au réchauffement climatique. Non, la fin d'une civilisation aura bien plus de chances d'arriver, comme toujours, par nous. Par nos conflits idéologiques, politiques ou religieux. Anticiper, c'est la capacité d'imaginer d'avance un événement. Ce qui ne veut malheureusement pas dire l'éviter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frédéric Sigrist et voici le 4e épisode de Crossover, le podcast Urban Comics qui vous parle de tous les mondes de la BD américaine. Et pour ce 4e numéro, qui va parler d'anticipation, comme je l'ai dit, j'ai à mes côtés Maximilien, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la librairie Bachibouzouk.
Tout à fait, à Pau.
À Pau.
Ouais.
Oh là là.
C'est un peu loin, j'ai fait de la route pour venir.
Fait de la route, hein. Ouais. Bon, merci.
Pas de souci.
Avec nous, un grand copain, Lloyd Cherry, bonjour.
Salut Fred.
Vous êtes journaliste pour Le Point et C'est plus que de la SF, votre podcast, et également rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant.
C'est ça.
Avec nous également Hugo, bonjour.
Bonjour.
Assistant éditorial de chez Urban Comics.
Tout à fait.
Les présentations sont faites. Et donc, ma première question, c'est quelle différence faites-vous personnellement entre une bande dessinée d'anticipation et une bande dessinée de science-fiction ? Lloyd.
Alors, c'est intéressant parce que le mot anticipation est très lié à la science-fiction puisque le mot devient populaire à partir de 1951 car il y a une collection qui s'appelle Fleuve Noir Anticipation. Et c'est la première grande collection de science-fiction. Fleuve Noir Anticipation va publier 2000 titres. Ça va être la collection culte pour les gens qui voulaient lire de la SF à partir des années 50, 60, 70. Et en fait, le mot anticipation va se relier avec la science-fiction. Et donc maintenant, on utilise le mot anticipation comme un sous-genre de la SF. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la dystopie, il y a le cyberpunk, le post-apo, le space opéra, voilà. Et il y a maintenant l'anticipation. Alors, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction proche, comme vous l'avez très bien expliqué, Fred. Et donc, c'est limite de la prospective, qui est un peu l'autre mot pour parler un peu d'anticipation. Donc, pour moi, de l'anticipation.
Mais prospective, ça fait un peu école de commerce.
Et ça fait un peu école de commerce, ça fait surtout un peu business.
Oui.
Voilà. Mais pour moi, quand j'entends anticipation, je le range dans la catégorie science-fiction.
D'accord. Maximilien, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le mot anticipation ?
Bah, comme ça a été dit, c'est un sous-genre de la science-fiction. Pour moi, alors j'en ai fait une petite définition personnelle, mais ça traite beaucoup de l'évolution de nos sociétés, de l'humain. Ça concerne beaucoup plus l'humain que la science-fiction, pour moi, qui se porte sur les technologies, sur la science, sur les évolutions scientifiques. Là où il y en a aussi dans l'anticipation, en science-fiction, c'est plus un outil. Alors que dans l'anticipation, c'est plus une conséquence ou ce qui va provoquer en fait la chute de nos sociétés.
D'accord. Donc là, l'anticipation, c'est le catalyseur en fait.
Ouais, c'est
ça. Le catalyseur de changement d'une société.
C'est ça.
Par rapport à un environnement qui soit...
Alors, pour plein de raisons possibles, alors que en science-fiction, je pense que elle le traite plus comme de manière plus optimiste, par exemple. Ou comme un outil potentiel à un avenir brillant pour l'humain. Alors que dans l'anticipation, bah, souvent, c'est ce qui cause notre perte, en fait.
Et alors là, on est très pointu sur la singularité d'un genre et de l'autre. Mais est-ce que vous, dans votre librairie, vous voyez des gens qui spécifiquement vous disent « Attention, je ne veux pas de la SF, je veux de l'anticipation ». Ou est-ce que on est un petit peu...
Non, pas vraiment. La typologie sur l'anticipation, elle est difficile à déterminer, je pense. C'est un sous-genre qui même reste assez indéfini, en fait, quand on fait des recherches et qu'on cherche des œuvres d'anticipation, c'est rarement indiqué comme un genre à part entière et comme une classification. C'est vraiment considéré comme un sous-genre, en fait. Donc, les gens viennent rarement nous demander une œuvre d'anticipation comme ça. C'est plus, on finit par en conseiller selon les critères qu'ils recherchent. S'ils recherchent des œuvres politiques, engagées ou ce genre de choses, souvent, on se rabat sur de l'anticipation, ce qui permet de voir ce que nos sociétés pourraient devenir dans un imaginaire personnel de l'auteur, par exemple.
Hugo, chez Urban, il y a une section clairement définie « anticipation ». Donc, c'est quoi le critère d'évaluation quand vous découvrez des comic books américains pour vous dire « Tiens, ça rentre dans la SF, ça rentre dans l'anticipation ».
Déjà, c'est très intéressant parce qu'en effet, l'anticipation, on n'en trouve pas le terme chez les éditeurs américains. C'est toujours classé comme de la science-fiction. Et cette classification dans l'anticipation, elle est plutôt de notre sort. En effet, avec des critères qui sont les nôtres.
C'est l'exception culturelle française.
Exactement. Et ouais. C'est beau. Et généralement, ça se base, mais comme on vient de le dire, sur un principe premier, qui est de dire que c'est une science-fiction qui est très sociale, qui va prendre un aspect contemporain à l'auteur et pousser tous les potards à 11, quoi. On va s'interroger sur les limites, sur les dangers, dans un futur plus ou moins proche. Donc encore une fois, la définition, elle est assez floue. Mais elle va en tout cas avoir pour principe premier toujours cet aspect très social et ce lien qui toujours va lier l'anticipation avec le contemporain.
Donc, comme l'a dit Maximilien, c'est vraiment l'humain, le traitement de l'humain qui prime dans l'anticipation.
Le traitement de l'humain et s'interroger sur son avenir, précisément.
Et est-ce qu'il y a une singularité dans le récit d'anticipation? Parce que de ce que j'ai pu lire, il y a notamment un point de vue politique qui me semble beaucoup plus marqué dans les œuvres d'anticipation que dans la SF qui peut l'être aussi, mais toujours un chouïa plus éloigné. J'ai vraiment l'impression dans les œuvres d'anticipation que j'ai lues que l'auteur, il assume clairement sa position et il dit bah voilà si vous continuez dans cette direction, voilà où ça va merder et je l'assume jusqu'au bout.
C'est clair que c'est un défouloir très fort. Hein. On part de ce qui nous inquiète. Il y a un lien très fort entre l'anticipation et les inquiétudes d'une époque. Donc forcément, il y a quelque chose de très personnel, de très intime même, hein, parce qu'un auteur va faire ressortir ce qui conçoit comme étant les dangers du futur. Donc oui, c'est un super défouloir pour un auteur, je pense, que de pouvoir y aller à fond et enfin de mettre en image et en texte tous ces éléments qui pourraient bien nous foutre sacrément dans la merde. Oui.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent l'anticipation est liée à d'autres sous-genres. Souvent, on a des mélanges. Je vais prendre par exemple Les Furtifs d'Alain Damasio, donc qui est le grand succès littéraire de ces dernières années, un des romans de science-fiction les plus vendus écrits par un auteur français. Et donc on est dans l'anticipation puisqu'il imagine le monde en 2040. Donc c'est clairement de l'anticipation et il va intégrer après d'autres éléments de d'autres genres comme un poil de cyberpunk, un poil de post-apo, un poil de dystopie. Et c'est vrai qu'on peut retrouver, l'anticipation arrive à bien se marier avec d'autres genres, ce qui est le cas de Civil War, qui est l'anticipation un peu post-apo finalement, puisqu'on est dans un conflit armé. Et c'est le cas de d'autres œuvres. Je pense à La Servante écarlate. Ce qui est intéressant, c'est quand ce roman est sorti dans les années 80, c'était de la dystopie. Et puis l'adaptation en série télé fait un espèce de mix où on a l'impression que ça peut arriver dès demain, ce monde avec les servantes. Et donc,
puis ça lance des grandes tendances politiquement aux États-Unis qui se disent ah, tiens, si on faisait pareil.
Et donc, globalement, on se retrouve face à une série qui mêle un peu les deux, l'anticipation et aussi la dystopie. Après, vous l'avez très bien dit en introduction sur Civil War, je pense qu'aux États-Unis, l'arrivée et le personnage politique qui est Donald Trump, et je pense que c'est le catalyseur de beaucoup de choses et nourrit beaucoup d'imaginaires qui sont pas très glamour.
Après, là, je me fais l'avocat du diable. C'est vrai que c'est la face émergée de l'iceberg Donald Trump, mais ces figures de politiciens trublions qui vont rabattre le, enfin qui vont renverser le système, etc. On en a vu en Argentine, on en a vu en Italie, etc. La France n'est pas à l'abri non plus de ce genre d'individus. C'est quelque chose qui touche beaucoup de civilisations aussi.
Oui, oui, puis je pense que d'un point de vue américain, ça vient de loin. Je pense que ça vient des années 70 avec le Watergate, avec ce moment où il y a la paranoïa vis-à-vis de l'État. Moi, comme on est ici dans une émission de comics, moi, j'ai été très marqué par le comics Martha Washington, un peu oublié maintenant, mais qui avait une héroïne noire qui était assez originale pour l'époque et qui imaginait déjà, c'est Frank Miller qui est au scénario et Dave Gibbons qui est au dessin, qui imaginait déjà une Amérique fracturée, divisée, avec un espèce de monde post-apo d'anticipation, et c'était les années 90. On parlera de d'autres comics, mais je pense qu'il y a d'autres comics qui ont été inspirés un petit peu aussi post 11 septembre. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, les éléments politiques de la société américaine, mais ça peut être aussi en France, hein, vont marquer l'imaginaire d'auteur. Et après, on va les retrouver dans la fiction.
Maximilien, est-ce que on peut parler de lanceur ou de lanceuse d'alerte quand on parle d'anticipation?
Alors, pour pouvoir parler de lanceur d'alerte, je pense que c'est quand même un terme assez fort. Il faut impliquer, ça implique beaucoup de choses, des conséquences et mettre sa vie en jeu. Le travail d'auteur n'implique pas forcément ces risques, je pense. Ça en fait pas une cause moins noble.
Salman Rushdie serait pas d'accord. Hein.
Oui, c'est pas faux. Mais ça, je veux dire, ça en fait pas un médium moins noble. En revanche, je pense que ouais, les conséquences sont quand même pas les mêmes, mais l'avantage de lire de l'anticipation, par exemple, c'est permettre d'avoir un point de vue sur l'avenir et peut-être de réagir aussi dans le présent pour éviter de reproduire des erreurs. Alors, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas trop de nos erreurs, mais je pense que c'est un bon moyen pour aussi imaginer l'avenir qu'on se réserve. Et je pense que les auteurs qui font de l'anticipation touchent souvent du doigt des choses. Alors, c'est souvent des éléments de nos sociétés qui sont comment dire d'actualité. Par exemple, je pense aux réseaux sociaux ou ce genre de choses. On n'est pas à l'abri de voir des œuvres qui vont pousser ce curseur de réseaux sociaux, comme Prez par exemple, où une jeune fille est élue présidente grâce
par défaut, voilà, qui se retrouve présidente.
Exactement. Voilà, je pense que Assange, par exemple, a pris et toujours dans une situation très compliquée. Je pense que si un auteur avait le moyen de faire tomber un gouvernement ou un système, on lui mettrait des bâtons dans les roues. Son éditeur serait pas forcément d'accord ou prendre ce risque de le suivre. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça irait pas aussi loin, je pense.
Oui. Après, on voit aussi de plus en plus le système générer sa propre autocritique via des œuvres de fiction. En comic book, vous avez cité Prez, mais il y en a d'autres, Billionaire Island, etc. Mais même, on peut le voir sur des plateformes de streaming, Fallout, l'adaptation du jeu vidéo, c'est une critique directe du consumérisme et des monopoles qui est financée par Amazon. Donc en fait, on est dans une sorte de cynisme total où la résistance elle-même est financée par le système.
Ouais, mais il y a toujours cette touche d'ironie dans ces œuvres, j'ai l'impression. Je pense à la Transmétropolitane où il y a beaucoup de cynisme, beaucoup d'ironie. Je pense que c'est pour alléger un peu le ton. Alors, ça dit des choses très vraies aussi, je trouve. Si on pousse les curseurs, je pense qu'ils sont toujours très proches d'une vérité potentielle de l'avenir. Mais c'est tout de suite, ils font tout de suite redescendre la pression avec cet humour souvent noir en plus dans ces récits et de l'ironie, beaucoup d'ironie.
D'ailleurs, Lloyd, j'avais entendu dire que de plus en plus dans les systèmes militaires occidentaux, il y avait des départements intégralement constitués à suivre l'actualité SF ou d'anticipation pour former les militaires aux menaces de demain, parce que souvent, ils ont remarqué que via l'anticipation ou la SF, ils avaient des fois une sorte de projection de ce qui leur pendait au nez.
Oui, en fait, il y a deux choses. Alors, bon, beaucoup d'armées ont des services de prospectivistes qui, en interne, et qui vont assez loin. Et certaines armées vont faire appel à des auteurs de science-fiction. Ça a été lancé par les États-Unis. C'est la fameuse Red Team. Ça a été écrit dans les années 80 aux États-Unis avec des très grands auteurs de SF américains qui étaient dans cette fameuse Red Team. Et on a lancé cette Red Team-là en France il y a à peu près 3-4 ans avec des auteurs comme Romain Lucaso, Laurent Genefort. Et oui, ils vont faire de la prospective militaire où ils vont imaginer des scénarios en fonction de choses qu'on va leur demander. Alors, une partie de ces scénarios sont publics, une autre sont privées. Ils ont signé un contrat. Et en effet, l'armée va, en fonction des scénarios imaginés par les auteurs, va prendre des mesures, va mettre de l'argent pour trouver, on va dire, affiner des idées, aller un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est utilisé comme un moyen de communication. Voilà, la Red Team a été très mise en avant via les médias. On pense un peu, c'est le même travail qui a eu lieu aussi avec le Bureau des Légendes, oui, qui a rendu glamour les services secrets. La Red Team rend un petit peu plus glamour l'armée. Et en même temps, il y a toute une partie souterraine où, en effet, il y a de vrais scénarios que jamais on verra et qui sont utilisés après par l'armée française pour anticiper les conflits de demain. C'est assez intéressant. Après, d'un point de vue science-fictif, c'est souvent un peu décevant parce que bah ça reste quand même très pragmatico-pragmatique, enfin voilà, très pratico-pratique en fait. On va pas, enfin il y a des scénarios un peu glamour d'ascenseur spatial, c'est le premier qui avait été présenté, mais on va pas imaginer une flotte, une aéroflotte ou l'étoile noire quoi. Ça.
Oui,
c'est pas ça qu'on demande.
Il y a le mur de la réalité et des budgets.
Ouais, et puis on va, je pense, surtout questionner les auteurs sur les nouveaux conflits, les conflits asymétriques. Et à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Après, ce qui est, je pense, pour les auteurs, qui est outre le fait qu'ils sont bien payés pour la mission, ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont voir des grands spécialistes militaires qui vont aller les voir, qui vont aller les briefer. Ils vont se déplacer dans des bases militaires, ils vont découvrir pas mal de choses. Et à ce niveau-là, oui, ça fait un petit peu rêver, ça fait un peu Command & Conquer, quoi, pour ceux qui aimaient bien la stratégie de guerre. Après, c'est compliqué de voir concrètement qu'est-ce que ça peut apporter parce que, il y a le secret défense.
Hugo, est-ce qu'il y a un public particulier pour l'anticipation ?
Il n'y a pas de public particulier. On l'a dit, c'est un genre qui se marie très bien à de nombreux sous-genres. Alors, on a cité par exemple Mark Russell avec Prez et Billionaire Island, qui est peut-être un des meilleurs auteurs d'anticipation dans le registre de la comédie. Et sans pour autant que ça diminue le propos, qui reste le même. On a d'excellents thrillers, grands spectacles. Je pense à Lazarus de Greg Rucka, dessiné par Michael Lark. On a vraiment toute typologie d'anticipation, ce qui permet de cibler de nombreux publics. En comics comme ailleurs, on voit très bien sur des séries d'anthologie comme Black Mirror, qui se sont fait un peu chef de file de l'anticipation grand public. On va toucher des choses qui vont être du registre de l'intime, du registre au contraire de l'invasion robotique à grande échelle.
Donc c'est une des rapports sexuels interespèces, des hommes et des cochons,
par exemple. Merci que j'avais effacé ce souvenir de ma mémoire.
Oui, mais je suis là. Comptez sur moi pour vous souvenir, vous remémorer les moments qui fâchent.
Mais c'est la force de l'anticipation. On y revient. Elle touche à l'intime. Elle touche à des inquiétudes qui sont assez universellement partagées, sauf peut-être par un petit nombre de milliardaires qui aimeraient bien être sur une île ensemble. Sinon, on les partage tous. Et donc, d'une façon ou une autre, on est facilement orienté vers ces sujets-là.
Et est-ce que c'est... On sait que pour les comics, souvent, ils sont portés par un gros blockbuster, un gros film. Et c'est... On a, dans un précédent crossover, on a pu aussi évoquer la science-fiction et à quel point, justement, le succès d'un film comme Dune bénéficiait aussi à la SF en bande dessinée et particulièrement en littérature. Mais est-ce que l'anticipation a besoin d'une série porteuse pour justement bien se diffuser en librairie ou ailleurs?
C'est intéressant parce que c'est pas si simple que ça.
Je suis très content parce que ça fait trois fois que vous dites que c'est intéressant.
Ouais. Voilà, c'est très bonne question, Fred Sigrist. non, parce qu'en fait, c'est un genre où on a du mal à le définir, d'ailleurs, l'anticipation. Et on n'a pas de coloration comme on peut avoir dans le cyberpunk, oui, dans le post-apo, dans le space opéra, où on va se raccrocher à des éléments visuels ou esthétiques très marqués. Ce qui n'est pas le cas de l'anticipation, pas vraiment. Et alors du coup, souvent, on va jongler. On a parlé de Black Mirror, super exemple, et qui va plutôt être un espèce... qui va plutôt s'amuser avec la tech, finalement, et on va plutôt être dans un espèce de pré-cyberpunk, des fois.
Parce que, par exemple, le film Le Fils de l'Homme, c'est de l'anticipation.
Ouais, et du post-apo. parce que il y a ce monde détruit, parce que il y a cette réalité que l'homme ne procrée plus, et on a ces, on a tous ces, ces villes, toutes ces villes à moitié détruites, ces paysages aussi de guerre. Donc on est, on joue, on jongle aussi pas mal avec le post-apo. Souvent c'est pour ça qu'on les, on les relie, on les relie ensemble, et c'est ça qui est assez intéressant. Mais l'anticipation a finalement peu de coloration, qu'on voit le, un autre grand succès d'anticipation, ça a été l'Anomalie. Donc ça s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est énorme. C'est difficile de voir une coloration à l'Anomalie. Donc ça, c'est ce qui est un peu compliqué avec ce genre qui est un peu fourre-tout. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, on a des gens qui n'aiment pas la SF et qui vont dire « je fais de l'anticipation ». Et moi, ça me fait doucement rigoler.
Ah,
parce
c'est comme
fait,
les romans graphiques pour dire voilà, qu'on fait pas de la bande dessinée.
C'est ça. Parce qu'en fait, ils font de la SF, quoi. C'est juste que soit ils ont pas de culture SF, soit ils... En effet, il y a une espèce de pudeur de gazelle de dire que c'est pas bien de faire du mauvais genre. Mais je pense que les récents succès, notamment de l'Anomalie et des Furtifs d'Alain Damasio, sont en train d'encourager pas mal d'éditeurs à produire ce genre de récits. Ouais.
Des récits d'anticipation, donc. Pas
oui,
de
et qui sont souvent d'ailleurs pas très bien, parce que c'est très intéressant de voir qu'il y a plein de récits d'anticipation qui sortent actuellement, mais les gens n'ont pas de culture SF. Et donc, on a un livre qui se ressemble. D'ailleurs, ces livres-là se ressemblent un peu tous. Et en effet, il y a un concept un peu fort, mais qui va pas très loin, qui se développe pas plus que ça. On a des relations entre les personnages un peu complexes, faussement complexes. Donc c'est rare de trouver aussi des bons livres d'anticipation écrits par des gens qui ne font pas de SF ou qui ne lisent pas de SF. Alors, en BD, c'est beaucoup plus simple, moi je trouve.
Maximilien, est-ce qu'il y a une locomotive selon vous du genre anticipation, une bande dessinée ouais. que vous pouvez conseiller et dire voilà ça? Oui. Ça ouvre la porte.
Tout de suite, je pense à Transmétropolitan, qui est pour moi la référence, un vrai condensé de tout ce qui peut se faire en anticipation. Dedans, on retrouve du voyage dans le temps, du clonage, tout plein de concepts de SF, mais toujours focalisé sur une narration. Alors, c'est une narration américaine, donc c'est divisé en chapitres, en issues, puisque ça sort de manière mensuelle aux États-Unis. Et donc, il y a un fil rouge, mais un chapitre égale une espèce d'histoire courte autour de personnages secondaires. Et en fait, tous ces prétextes de concepts scientifiques, etc., sont là pour parler de l'humain et de ses conséquences sur eux. Et donc de parler toujours, comme on l'a dit, de l'avenir, de notre avenir et de ce qui peut nous réserver.
D'accord. Donc Transmétropolitain.
Ouais.
Avec Spider Jérusalem.
Exactement.
Et justement, Spider Jérusalem est quelqu'un d'extrêmement engagé dans son propos, il mâche pas,
il parfois mâche violent, pas
dire, voilà, il est même très violent. V pour Vendetta d'Alan Moore est lui aussi un pamphlet contre une certaine idée qu'on peut associer à l'Angleterre de Thatcher ou tout ça. Mais à une époque où on voit énormément sur les réseaux de gens dire « Ah non, mais pas de politique dans mes comics, pas de débat, etc. C'est trop woke, c'est ci, c'est ça, tous ces mots un peu valises et fourre-tout qu'on a trouvé ces derniers temps pour occuper les gens. Comment ça se fait que ces œuvres qui datent d'il y a plusieurs décennies n'ont pas été taxées de pamphlets d'extrême gauche, vu qu'en fait, elles étaient déjà extrêmement engagées ?
Bah, je pense que ça vient du fait que on rêve tous inconsciemment de voir tomber des dictateurs ou de voir tomber des gouvernements qui font souffrir leur population. Et dans V pour Vendetta, c'est exactement ce qui se passe. Dans Transmétropolitain, il se met au boulot pour y arriver aussi. Et je pense qu'il y a ce petit fantasme de savoir qu'un jour, ceux qui font souffrir les autres paieront. Et ces personnages sont en plus super stylisés à chaque fois. Ils ont une vraie personnalité. Dans V pour Vendetta, il est super énigmatique.
Mais d'ailleurs, les Anonymous, dans le monde réel, désormais, voilà, s'inspire du masque de Guy Fawkes.
C'est devenu un symbole. Ils se l'ont approprié parce que sa personnalité, sa rigueur, plein de traits de caractère qui font que on aimerait un peu lui ressembler parfois aussi, avoir ce courage aussi d'affronter seul les plus grands, font qu'on fantasme ces personnages et les voir gagner apporte une certaine satisfaction, je pense, à la fin.
Et pourquoi, au moment de la sortie, ça n'a pas généré le même type de réaction qu'on peut avoir aujourd'hui quand un récit est un petit peu trop politisé ?
Bonne question. Je pense que, comme ils anticipent, donc comme c'est de l'anticipation, je pense que c'est parfois ils visent peut-être un peu trop tôt certains concepts. Et ces concepts, on les retrouve que bien plus tard. Et c'est là où on réalise que certains auteurs avaient raison déjà, en fait, étaient des visionnaires et avaient raison à cette époque. Je pense comme ça à Watchmen, par exemple, aussi, mais sur la politique. Mais je pense qu'au moment de sa sortie, on manque de recul pour comprendre l'impact qu'il pourra avoir sur l'avenir. Et Transmétropolitane, par exemple, je reviens dessus, mais c'est tous les concepts qu'il aborde. Eh ben, on y vient doucement. Il y a des choses qui nous parlent maintenant, l'anticipation des réseaux sociaux, ce genre de concept. Et donc, je pense qu'à l'époque, ça manquait peut-être de recul sur l'avenir. Et maintenant, on s'en rend plus compte, en fait.
Aujourd'hui.
Ouais.
Je crois aussi que, ouais, à l'époque, elle a énormément changé. Il n'y avait pas le numérique. Maintenant, il y a le numérique. Maintenant, on est dans des bulles, entre guillemets, on se nourrit dans sa propre bulle de pensée et sa propre vision du monde.
Et sa bulle d'algo,
je pense qu'il y a un basculement où il y a quand même une droitisation de la parole qui est là, concrètement, qu'on voit ce qu'on entend maintenant dans les médias. Si on compare ça il y a 20 ans, c'était pas possible, où il y aurait eu des cris d'orfraie. Maintenant, c'est possible, il y a une parole qui s'est quand même beaucoup lâchée. Il y a toute une culture d'Internet aussi plus réactionnaire qu'avant. Et qui, je pense, entraîne pas mal de gens derrière. Donc, c'est assez fascinant de voir qu'il faut se positionner. C'était drôle parce qu'à une époque, on avait l'impression que c'était plus simple. Il y avait les noirs et blancs, le monde était voilà, les bons, les mauvais. Et on a souvent tendance à oublier que les comics, c'était aussi assez politique quand même. L'invention des grands super-héros, il y a des valeurs. Voilà, il y a des valeurs contre le fascisme, contre voilà des choses comme ça qui se maintiennent. Et c'est vrai que on est dans une époque où il va falloir à un moment donné, tôt ou tard, je pense, plus s'engager. Et ça, c'est assez intéressant finalement, puisque on est confronté à ça. Mais c'est sûr que ça devient plus difficile pour les artistes. Mais il y a aussi une surproduction, il y a aussi une surmédiatisation. Un comics qui sort maintenant, tout le monde peut avoir accès, en fait, en temps réel. Il suffit qu'ils se retrouvent sur en scan le lendemain, oui, de sa sortie.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le lire et donc le contextualiser, mais certaines planches, tout le monde peut y avoir accès.
Ouais, mais en même temps, c'est intéressant de voir pourquoi ça choque autant des gens d'avoir des personnages qui sont engagés. Moi, je pense que ça appelle à des choses plus profondes chez chaque lecteur, quoi. Donc, ouais, ça reste de la BD. Enfin, c'est ça. Non, mais fondamentalement, et en fait, on voit des gens, on a l'impression qu'on est en train de les tuer parce que on va faire, je sais pas, un Spider-Man qui est peut-être gay, et les gens partent en freestyle et on se dit, waouh, c'est quand même, voilà, c'est dur, quoi, c'est dur pour eux.
Et
Hugo,
il y a une, c'est vrai que cette guerre autour de la, cette guerre, ce conflit culturel, en tout cas, entre, contre une littérature qui serait trop de gauche et inversement, elle est aussi très contemporaine et je reparle de Lazarus Greg Rucka, qui est donc l'auteur. Il a des propos qui sont assez intéressants à ce sujet. La série, elle commence en 2013 et il déclare des années plus tard, entre 2013 et 2016, je faisais de l'anticipation. Depuis, c'est du documentaire. Alors, c'est un petit peu exagéré parce que dans Lazarus, on a des soldats immortels qui s'affrontent pour des milliardaires contrôlant le monde.
Ça, c'est vrai.
C'est
le MMA.
J'ai pas le droit d'en parler.
Je vous ouvrirai un lien avec les sites que je fréquente. Ouais, je sais que c'est vrai.
Et il y a vraiment cette idée chez Greg Rucka que manière tous ces récits ont pris une autre teinte avec le temps parce que l'anticipation par définition, attention, ça anticipe, mais le présent a rattrapé parfois cette anticipation. Donc on le voit d'une autre coloration. V pour Vendetta, je pense que c'est impossible. Et d'ailleurs Alan Moore le dit dans V pour Vendetta, ce futur du passé, je me mélange tout. Dans les années 90 fascistes, il voit la suite du
tableau. Au bout d'un moment, moi je peux comprendre.
c'est lié à la suite de la défaite de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher n'a pas perdu ses élections. Le futur de V pour Vendetta n'existe pas parce que les événements anticipés par Alan Moore n'existent pas. Il fait, mais en fait, c'est...
C'est une uchronie.
Oui, je ne prédis pas le futur. Vous pouvez y voir ce que vous voulez, je n'ai pas pu prédire le futur. Et la lecture que vous en faites aujourd'hui n'est pas la lecture de sa sortie à maintenant 30 ans. Et donc forcément, oui, aujourd'hui, tous ces récits, je pense que malheureusement, ils commencent à prendre cette teinte. Et même V pour Vendetta n'échappera pas à la règle d'être traité de pamphlet de gauchiste, tout simplement.
Oui, et en fait, ils sont passés entre les gouttes, mais ça y est, maintenant, la
réalité les rattrape.
Hugo, vous avez la parole, gardez-la. Quelle est votre œuvre d'anticipation favori?
Je vais le dire pour la troisième fois aujourd'hui. J'aime beaucoup Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark. C'est vraiment on parlait tout à l'heure de grand spectacle, de locomotif de l'anticipation. C'est un bel exemple. On est vraiment sur du blockbuster, très intelligent, très bien mené. C'est notamment une de ses grandes qualités, c'est la qualité de son world building. C'est sorti en deux intégrales, la troisième intégrale arrive bientôt de mémoire en cet été, dira-t-on. Et c'est vraiment très riche en bonus. On a de la frise chronologique avec des événements. Et moi, ça m'a marqué parce que c'est un récit qui est très intelligent dans sa narration, dans ses personnages et aussi dans son anticipation. Je viens de le dire, l'aspect documentaire dont parle Greg Rucka, c'est assez fou. En lisant les événements, on se dit, mais oh merde, c'est un futur vraiment proche. Et c'est très plaisant. Et dans un autre genre, un récit qui me plaît beaucoup, on a peu parlé de super-héros, mais The Dark Knight Returns de Frank Miller, c'est quelque part une forme d'anticipation. On suit un Batman quinquagénaire en retour de retraite, qui est dans une Gotham City plus que jamais rongée par la criminalité, avec un gang des mutants qui règne sur la ville.
Avec une médiatisation.
Et précisément, c'est cet aspect qui en fait presque plus de l'anticipation. On a un gouvernement autoritaire, des médias qui vont offrir un cadrage très précis du monde et qui va donc de fait manipuler les foules. Je trouve que c'est un très bon récit qui conjugue parfaitement la symbolique qui est celle des super-héros avec le genre de l'anticipation et sa charge sociale.
Maximilien ?
Je rebondis. Alors, c'est pas forcément mon œuvre d'anticipation préférée, mais je pense aux médias et au traitement du journalisme et son importance dans l'anticipation. Elle est quand même assez récurrente. Je pense à DMZ, là. Et c'est une œuvre qui m'a mis une grosse claque, vraiment. En fait, on suit un journaliste qui, enfin, même pas, en fait, à la base, c'est un stagiaire photographe qui va suivre un grand journaliste qui a gagné des prix Pulitzer, etc.
Mais justement, ça m'a fait penser quand j'ai vu Civil War d'Alex.
Il y a un vrai parallèle en plus, ouais. Et en fait, donc, pour recontextualiser, on est aux États-Unis, une guerre civile frappe les États-Unis et New York est divisée, ses quartiers sont divisés et Manhattan est devenue une zone démilitarisée. D'où son titre, DMZ. En anglais, je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer. Et donc, voilà. Pour revenir sur les médias, il y a un vrai jeu entre ce personnage qui va finir seul dans ses quartiers où règne une espèce de chaos organisé. Les gens se sont réunis en micro-sociétés. Alors, le crime existe encore et c'est même assez violent. Mais il y a une part d'humanité qui persiste et ils essayent quand même de vivre entre eux comme ils peuvent. Et ce journaliste, en fait, ce photographe qui va devenir journaliste et reporter de terrain pour l'armée, en fait, va faire le jeu de politique de ces deux camps, en fait, qui vont s'affronter. Manhattan qui essaye à la fois de prouver que cet avenir est possible et ces sociétés sont possibles et l'armée qui en fait souhaite s'en débarrasser parce que c'est un modèle qui marche en fait et eux ne veulent pas que les États-Unis deviennent ce système et c'est super intéressant parce que c'est des pièges politiques, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, lui il est au milieu, il devient... Bon, je spoil un peu, mais on a l'impression qu'il frise la paranoïa. Il sait plus sur quel pied danser, à qui faire confiance. On est vraiment en sueur avec lui. C'est compliqué de savoir où est la vérité. Et c'est un récit passionnant, vraiment.
J'ai adoré le lire aussi. Et j'en profite parce qu'on tourne autour d'un grand inconnu, mais enfin, non, qui n'est pas un inconnu, mais dont on n'a pas encore cité le nom, mais qui a beaucoup fait justement pour inspirer tous ces auteurs. John Carpenter, évidemment, parce que voilà, Escape from New York avec Kurt Russell et tout ça, ce Manhattan. D'ailleurs, dans l'anticipation, voilà un réalisateur qui a beaucoup fait pour jalonner le genre, que ce soit avec ce film-là, que ce soit aussi même avec...
Los Angeles, la suite.
Los Angeles, voilà, avec cette invasion d'aliens cachée au sein de la société, etc. Donc, je pense que ça peut être un podcast un petit peu dédié à John Carpenter.
C'est vrai que DMZ fait vraiment penser à New York 1997, alias Escape from New York, qui est un film culte et qui imagine un super agent secret, entre guillemets, aller chercher le président des États-Unis dans un Manhattan qui est devenu une prison.
Un agent secret profondément anarchiste.
Et profondément anarchiste, qui est obligé d'aller sauver le président des États-Unis, qui est plus ou moins réactionnaire, enfin, de ce qu'on comprend. C'est vrai que moi j'ai les deux titres qui ont été cités, je les ai beaucoup beaucoup appréciés. Même si il y en a un qui me fait plutôt penser à du post-apo, évidemment, avec ces êtres immortels.
Alors attention, parce que Lloyd, il est ceinture noire hein, de science-fiction. il voit des choses que c'est comme l'oreille absolue en musique. Tu vois, nous, on est là, waouh, c'est vachement bien l'anticipation. Et non, ce n'est pas de l'anticipation, c'est de la
Je fais pas le point.
Et Lazarus, non, je trouve ça super. J'ai hâte de lire le deuxième que j'ai là à la maison. Et DMZ, j'ai trouvé ça assez intéressant sur le traitement. D'ailleurs, c'est marrant que l'auteur évolue. A eu l'idée en fait post deuxième guerre d'Irak en 2003 et c'est assez fascinant puisqu'il imagine que cette révolte ou en tout cas où il n'y a pas vraiment de cette guerre civile qui est plutôt qui est portée par un mouvement un peu idéologique part de la base et qui part des classes populaires et qui est actuellement l'électorat de Trump. Donc c'est assez marrant qu'il imagine un monde où c'est avant tout une espèce de révolte populaire de paysans, de gens du peuple qui en gros se révoltent contre Washington et puis on rejoue la guerre civile puisqu'en fait dans l'imaginaire américain la guerre de sécession elle est traumatique et moi je pense que plus d'un point de vue plus global on c'est toujours la peur de la chute de l'Occident. Enfin moi j'ai l'impression que ces films là ou ces œuvres là parlent aussi de la chute,
c'est-à-dire que guerre civile aux États-Unis chez nous ça se traduit par grand remplacement.
Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu comme ça, tout à fait. Puis bon, bah, de toute façon, le mythe du grand remplacement, c'est Ravage de Barjavel. Donc, c'est déjà les années 30. Mais c'est assez fascinant de voir qu'il y a aussi cette peur, je pense, de la fin ou de la chute de la civilisation occidentale et qui nourrit beaucoup d'œuvres. Moi, mon œuvre d'anticipation préférée, bah, c'est un film, c'est Bienvenue à Gattaca. Je pense que tout le monde peut-être a vu et connaît sur l'eugénisme, qui est hyper intéressant, qui est un très beau film d'Andrew Nichols et qui fait vraiment penser au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Qui était à l'époque qui était une œuvre étrange et bizarre et qui fait de plus en plus penser à la réalité. Moi c'est vraiment bien
Gattaca. Et en comic book.
En comic book, je vais être un peu comme monsieur. J'ai beaucoup aimé ce comic et qui m'a bien plu après en comic.
Mais lequel
book... Ah pardon. Lazarus. C'est Lazarus moi qui m'a récemment hein, que j'ai lu qui m'a bien plu. On parlait de Billionaire Island tout à l'heure et je trouve que c'est très drôle parce que l'anticipation peut vraiment être humoristique.
C'est extrêmement bien traduit en plus.
Ouais, c'est très bon. On connaît le traducteur, c'est un type super.
Très très bien traduit.
Mais je trouve ça bien parce qu'en fait, ça c'est un truc qui est marrant que les anglo-saxons ont. Nous, on n'a pas trop. Ils arrivent vraiment à mettre cette dose d'humour et aller assez à l'extrême dans cet humour. Et ça, je trouve ça bien parce que nous, on n'a pas du tout cette culture-là.
Bah, c'est-à-dire que j'ai ressenti ça justement en relisant Billionaire Island et Prez également, c'est que je me suis dit qu'il y avait ce qu'on peut pointer du doigt de manière assez outrancière dans des dessins de Prez satiriques, Charlie Hebdo, l'ancien esprit, hein, pas le nouvel,
Harakiri.
Le nouvel esprit, mais Harakiri, etc. Ben, je trouve que cet esprit-là, on le retrouve particulièrement dans des comic books d'anticipation. Où il y a une faculté qui est assez impressionnante des Américains, qu'on connaît aussi pour des outrances très puritaines, à avoir un regard critique, mais très pointu et très féroce, sur ses contemporains, la manière dont les religions sont brocardées. Et je suis toujours assez surpris de voir à quel point ils sont décomplexés dans ces comic books, alors que sur tout le reste, on a vraiment l'impression que souvent, on nous vend... Ben non, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Alors qu'en fait, ils ont des œuvres, mais tout aussi, si ce n'est plus outrancière que certaines de nos caricatures qui ont posé problème.
Ouais. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a une grande liberté à ce niveau-là. Et bon, il y a un côté très extrême. Donc et en même temps, ils sont proches de la réalité. Ça qui est très drôle dans Billionaire Island, c'est qu'enfin, tu te marres en lisant le comic. Ça dit beaucoup de choses, en fait, avec pas mal de subtilité sur les milliardaires. Ou sur les ultra riches un peu à la Succession, qui est une excellente série qu'on recommande. Mais il y a cet humour un peu grotesque des fois et très trash qu'on retrouve aussi dans les super-héros. Je pense que le succès de The Boys est aussi lié à son ton également. Et c'est vrai que nous, on a du mal, en tout cas, à produire de la science-fiction humoristique. On en a un petit peu avec Fluide Glacial, mais ça va plutôt être du space opéra, typiquement, où on va suivre les aventures d'un aventurier qui est totalement loser avec des aliens. Mais on a assez peu de...
Ah, il y a Bruno Dumont qui a sorti Vampire. Il y a peu, il aurait dû se en dispenser, mais...
Ah, c'est... dire que c'est de l'argent. Et pourtant, j'aime la SF. Hein. je défends la SF, mais quand même, je vois ça, je me dis, c'est quand même un peu dur. Mais non, c'est intéressant. En tout cas... vu que y a pas mal de productions de comics en ce moment, on découvre de plus en plus de pépites et ça fait plaisir.
Et alors Moi, j'aimerais en citer une que j'ai découvert pour préparer cette émission. Et vraiment, je bats ma coulpe parce que elle n'est pas sortie hier, mais j'étais complètement passé au-delà de ça. C'est Punk Rock Jesus de Sean Murphy que j'ai tout bonnement adoré pour ce que ça dit, pour la manière dont c'est dessiné. En plus, j'ai eu la version noir et blanc, donc vraiment avec l'ancrage de Sean Murphy, avec ses traits très... comme si quelquefois il était possédé par un démon. Vous savez, comme dans les films, quand il y a un enfant qui commence à faire des dessins très rapidement comme ça, et puis quand il sort de son hypnotisme, on voit qu'il a dessiné un démon au-dessus d'une ville. Et ben, il y a certains dessins de Punk Rock Jesus qui m'ont fait penser à ça. Et l'histoire, c'est assez simple, c'est que c'est une boîte de production qui fait de la télé-réalité décide de faire une émission de télé-réalité sur un clone de Jésus, c'est-à-dire qu'il prétend avoir retrouvé le sanctuaire, et en collectant l'ADN, ils font un clone de Jésus qui vont suivre de sa naissance jusqu'à l'âge adulte pour voir s'ils arrivent à recréer le Messie. Et donc évidemment, ça génère des débats enflammés, les communautés religieuses... s'empare de l'émission, on observe tous les faits et gestes de cet enfant et de sa mère et de son entourage, et ben, c'est une critique évidemment des systèmes religieux, mais aussi de la télé-réalité, des gouvernements aussi, de la manière dont on fabrique un messie, parce qu'à un moment donné, bah, voilà, Jésus, il est censé avoir des yeux bruns, et bah, le producteur de l'émission dit non, les Américains ont l'habitude de faire des iconographies de Jésus blond aux yeux bleus, donc il faut au moins qu'il ait les yeux bleus, donc on lui change la couleur de ses yeux. Ce Jésus qui s'appelle Chris rentre enfin dans une école publique, parce que lui, il tombe amoureux d'une jeune élève afro-américaine. Et très vite, on lui dit non, il est hors de question que tu t'affiches avec une afro-américaine. Et hop, on va lui mettre la pom-pom girl bimbo qui correspond aux attentes du public américain. Et tout ça va évoluer vers un Jésus qui va s'émanciper et qui va devenir un chanteur punk rock anard. Qui va sur scène en disant aux États-Unis, Jésus vous hait et vous méritez tous d'aller en enfer. Et le but du jeu, c'est d'organiser des concerts, mais jusque dans les villes saintes à Jérusalem, face aux trois religions qui, évidemment, se sont pour une fois toutes mises d'accord pour dire non, on n'en veut pas chez nous, lui, ça va créer des problèmes. Et j'ai trouvé ça assez énorme. Et ça me fait rigoler d'avoir lu ce comic book maintenant, surtout quand ça arrive après des décennies de débats médiatiques où on accuse certains humoristes d'être allés trop loin ou ce genre de choses. Je me dis, faut croire qu'ils ont vraisemblablement pas lu certaines BD, parce que voilà, je trouve que jusqu'au boutisme, on y était à fond. Donc je conseille à nos auditeurs et auditrices Punk Rock Jesus.
Et si vous avez aimé Sean Murphy en anticipation, il a aussi dessiné Tokyo Ghost, écrit par Rick Remender, de l'anticipation et du cyberpunk.
Merci.
J'anticipe.
Vous commencez à me connaître.
Bien sûr.
Là, il était déjà en train d'attendre
sur
toi.
En le disant, j'ai eu une petite goutte perlant sur le front. Et c'est un récit cyberpunk, et alors beaucoup moins cynique, mais on est grossièrement sur le croisement entre Mad Max, Judge Dredd et un film de samouraï. Si ça peut en convaincre certains, moi j'étais tout à fait convaincu.
On a l'impression que c'est l'inconscient de certaines personnes
mais en tout cas, c'est, de comics. C'est très très fort, toujours ce trait splendide de Sean Murphy. Je suis quasiment sûr qu'il existe aussi en noir et blanc. Il faut foncer.
En recommandation récente que j'ai lue chez Urban, il y a Gideon Fall, qui sont donc de Jeff Lemire, qui est le scénariste, en deux volumes.
On dit Gideon ou Gideon ? Je sais jamais.
Faites ce que vous voulez, lisez-le.
Ouais, c'est bien ça, mais j'aime tellement quand on me dit faites ce que vous voulez.
C'est très très bien.
Gideon
Fall, ouais. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc là, c'est du voyage dans le temps, plus ou moins temporel, avec un espèce mélangé à un thriller. Mais c'est très bien. Vraiment, j'ai été assez impressionné. J'ai dévoré le premier, que j'ai trouvé assez complexe, avec une mise en page très impressionnante. Et c'est chouette parce que c'est en deux volumes, donc ça se lit plutôt bien. Alors ça prend du temps parce que c'est long, c'est gros, mais ça m'a beaucoup. J'ai été très impressionné par le titre et je trouve ça brillantissime. est très complexe. Donc, ça aussi, c'est agréable de lire aussi des comics complexes où on se pose des questions et il faut suivre. Vous faites concentrer. Où ça demande du travail au lecteur de se dire, bon, alors, où est-ce qu'on en est dans l'enquête?
Et là, on est évidemment, on a cité des titres urbains, mais j'anticipe déjà les réactions. Elles sont pas nombreuses, hein, mais il y en a toujours un. Il dit oui, mais c'est qu'urban, vous faites de la pub, etc. Alors attention, personne ne nous oblige à choisir des titres qui viennent d'urban. Là, c'est une coïncidence que. Ils sortent beaucoup de bons titres. Mais est-ce qu'il y a d'autres éditeurs qui auraient vos faveurs également et qui ont sorti de très très bonnes œuvres d'anticipation?
Alors moi je pense à 404 qui ont sorti plusieurs titres qui pourraient s'en rapprocher. Alors en fait là j'ai les titres m'échappent du coup, mais il y a notamment Ben Caldwell.
Oui.
Qui fait des super œuvres de science-fiction.
Qui a dessiné Prez aussi.
Prez, voilà, par exemple. Et il a fait, alors, je suis désolé, le titre m'échappe, mais une super œuvre sur un petit village aux États-Unis où un centre commercial va sortir de terre du jour au lendemain.
Everything.
Ah ouais, merci. Et en fait, ce centre commercial a pour effet de rendre les gens totalement robotiques et donc ils font leurs achats avec le sourire, les vendeurs ont le sourire, sauf qu'il y a une poignée de personnages qui sont pas sensibles à l'effet de ce centre commercial et vont commencer à se poser des questions en se disant mais pourquoi les gens réagissent comme ça, c'est mon voisin, il est pas comme ça normalement.
Et il y a quelque chose dans la bande son de Dua Lipa, c'est ça?
Je sais pas, alors ça, j'avoue, j'écoute pas, donc je sais pas.
Mais c'est un scud. Parce qu'à chaque fois que je suis dans un centre commercial, j'entends du Alipa.
Oui, c'est vrai que c'est.
Je me dis, ça se trouve, je suis conditionné pour acheter certains trucs.
Peut-être qu'il y a un effet, ouais, sur le cerveau, je sais pas. Alors justement, peut-être que ces gens qui deviennent robotisés sont soumis à l'effet de quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est de la science-fiction. Ça parle de ça, c'est aussi de l'anticipation. Hein. Ça parle de société consumériste. Ça parle du pouvoir de la publicité, du pouvoir de la consommation, de la surconsommation, en tout cas aux États-Unis. Et c'est un super album. Et alors il y en a chez 404, il y en a bien d'autres et d'autres œuvres d'anticipation. Alors là, comme ça, je suis désolé, j'ai un blanc, mais voilà, un super éditeur.
Non, bon voilà, Everything chez 404.
Everything, ouais, merci.
Pour, c'est vrai que 404 éditions, c'est vraiment très bien. Il y a une très très belle fab et c'est très beau. J'ai beaucoup aimé mon apparition dans
une fab,
c'est une fabrication, pardon. C'est une très belle fabrication.
Vous êtes entre experts. Donc
voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé apparition dans le ciel de Berlin-Est, qui est pas vraiment l'anticipation, enfin qui est un espèce de mélange de pas mal de choses et qui se passe pendant la guerre froide, mais que j'ai trouvé très chouette. C'est un album qui, parce que ce qui est compliqué, je pense, ici, autour de cette table, c'est qu'on lit beaucoup de choses pour nos métiers respectifs. Et qu'est-ce qui vous reste? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui vous reste à la fin? Dans le fond, vous avez bouffé une centaine de comics dans l'année, voire plus. Qu'est-ce qui vous reste de tout ça? Et bah voilà, typiquement, Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Moi, c'est un comics qui m'a marqué.
C'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites, Lloyd, parce que c'est à la fois un avantage et un inconvénient d'avoir accès à énormément de bande dessinée, mais c'est ce qui rend l'exercice compliqué, c'est que des fois il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, un scénario peut se retrouver dans un autre, et c'est pour ça que tout d'un coup un coup de cœur qui fait que on va pas subir la lecture, mais qu'on va avoir envie de tourner les pages.
Ouais.
Moi je le vois assez rapidement, c'est-à-dire que il y a des gros pavés, je commence et tout d'un coup j'ai pas vu leur passé, je l'ai déjà fini, alors que d'autres qui sont des fois plus courts, ça va durer 3-4 jours, où la lecture, vraiment, je sens que je peine, quoi.
Et moi, je pense, alors maintenant, j'aime bien quand il y a une radicalité, soit graphique, soit narrative. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Gideon Fall et puis aussi Lazarus, parce qu'il y a une radicalité scénaristique avec des mondes assez horribles ou avec des principes comme ça. Et dans le cas de Apparition dans le ciel de Berlin-Est, moi, c'est vraiment le visuel, cette couverture sublime qui m'a vraiment marqué. Et je trouve que c'est un chouette album qui n'est pas forcément l'anticipation, mais qui joue avec différents codes, un peu la Stranger Things. Donc il mixe plein de choses. C'est un peu. On est aussi dans
Est-ce
une époque
c'est
de mashup.
Vraiment le bon exemple pour que les gens lisent Apparition.
Non, mais c'est peut-être une. Il y a les thématiques de Stranger Things qu'on retrouve un petit peu dans ce comics quand même. Donc,
en mieux.
En mieux. Vous aimez pas Stranger Things, Fred?
Non, c'est pas ça. C'est parce que je connais la hype de Stranger Things. Elle est passée. Et je sais que les gens vont dire.
C'est une saison encore.
C'est beau. Oui, parce que Arnaud Tomassini, qui est à côté de moi, parce que c'est lui qui réalise, je le rappelle, me montre en même temps à quoi ressemble.
Ça permet de dire d'écouter First Print. Voilà,
oui.
Je recommande toujours d'écouter
écouter
First Print.
Écouter et réécouter.
Oui, surtout, évidemment. Alors moi, mon petit plaisir, quand j'écoute First Print, c'est vraiment les interviews d'éditeurs que je trouve passionnants. C'est long, c'est génial. Et donc, il y a de vrais. C'est super parce que ça permet de questionner sur les stratégies éditoriales. Et pourquoi tel type de comics arrive chez les éditeurs. Et ça,
crossover, on fait des crossovers.
C'est beau, ça.
C'est très fort.
Et Hugo?
En effet, hein, y a Urban profite d'avoir eu notamment le catalogue Vertigo, qui était très riche en succès de l'anticipation. On a parlé de DMZ, mais on pourrait citer Y, le dernier homme,
oui.
De Brian Vaughan.
Slipper.
Pierre Slipper. De nombreux succès qui ont vraiment profité au catalogue, mais on est loin d'avoir...
La semaine qui, à mon avis, aurait dû être une œuvre bien plus médiatisée qu'elle ne l'a été s'ils n'avaient pas foiré cette série
c'est
comme
sûr.
Des gros sagouins.
C'est sûr que c'est un raté, parce qu'il y a voilà, dans ce catalogue Vertigo beaucoup de choses très bonnes qui perdurent avec les années... Mais c'est vrai que les autres éditeurs font aussi de très bonnes choses. Le label 619, Shangri-La, qui est vraiment, pour moi, un coup de cœur de... C'est, oui, Arnaud, là aussi. Tout est là.
Toutes les BD sont ici, en fait.
Vous n'avez pas idée.
En fait, on vous le dit pas, mais on est en train de se promener dans l'appartement d'Arnaud, c'est pour ça.
Shangri-La, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. 404 graphiques, maintenant. A de nombreux succès, donc Everything qu'on a cité, We Live, qui est aussi un très 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 beau livre. Et même dans le super-héros, moi, par exemple, un de mes coups de cœur d'anticipation, c'était le run de Tom Taylor sur Superior Iron Man chez Marvel, oui. Édité chez Panini, où on retrouve un Superman, wow, la déformation professionnelle, un Iron Man, un Tony Stark, qui n'est plus vraiment humain, qui est maintenant une intelligence artificielle. Et moi, ça fait partie de mes premiers contacts lecteurs de super-héros naïfs que je suis, avec ces thématiques d'anticipation, de transhumanisme. Donc, on a de la chance d'avoir un marché de l'édition qui a une production très prolifique en anticipation, dans tous les genres. Et on l'a dit, avec différents formats, du très très beau format chez 404 à l'Omnibus, au format Nomade chez nous, pour toutes les bourses, pour tous les formats.
Ah oui, ça c'est... Urban est connu pour ça.
C'est... Bien sûr.
Est-ce qu'il existe des sujets dans l'anticipation tels que l'écologie, le féminisme, voilà, des sujets qui déchaînent les passions, on le sait, dans l'actualité, mais qui sont traités également dans ces ouvrages? Parce que ma compagne est très très branchée féminisme et écologie, etc. Et ça a été une de ses premières questions. Elle m'a dit pose là. Est-ce que ça fait partie des œuvres d'anticipation qu'on voit apparaître désormais en bande dessinée ou ailleurs?
Ouais, je pense que c'est même dans la nature même de ce sous-genre de soulever les questions d'actualité. Je pense aussi que c'est de la science-fiction, c'est aussi un genre assez inclusif. Je pense qu'il y a une volonté de d'une nouvelle génération d'auteurs, notamment, on parlait de Mathieu Bablé par exemple, mais qui souhaite voilà, intégrer ces concepts dans leur récit, parce que c'est devenu quelque chose d'important et de même, j'ai envie de dire, et j'espère, commun. C'est toujours un peu abordé. Alors, de plus en plus, on en fait, par exemple, des personnages LGBT ou homosexuels, des personnages principaux. Je pense à, alors, si on le considère comme l'anticipation, mais Tilly Walden, une autrice américaine, qui a fait une nouvelle version de Walking Dead, où elle fait la part belle, justement, à des personnages homosexuels, en restant dans le contexte de Walking Dead et je pense que ça se passe même dans une espèce de même temporalité que la série principale. pour l'écologie, je pense qu'il y a aussi que ça va être ce nouveau déclencheur de drame dans les sociétés. Je pense qu'on va vers des œuvres qui sont très portées sur les conséquences provenant du réchauffement climatique ou des catastrophes naturelles dues toujours à l'homme, évidemment. Et donc, c'est aussi des sujets traités tout à fait dans l'anticipation. Et ça en fait même, je pense que ça en est même le cœur de ces œuvres, puisqu'ils parlent d'aujourd'hui, ils anticipent l'avenir et donc des problématiques d'aujourd'hui qui pourraient et qui vont arriver à l'avenir.
Loïd ?
Ouais, alors je peux recommander à votre compagne de lire Astra Nova de Lisa Blumen.
Oui, très bien.
C'est l'album qui a gagné le deuxième prix de C'est plus que de la SF en bande dessinée, puisqu'on a lancé un prix BD avec des auditeurs et des auditrices qui votent. Ils sont tirés au sort, ils sont une quinzaine. Et c'est Astra Nova qui a gagné et qui est de l'anticipation féministe. C'est un très très bel album. Et Lisa Blumen est une autrice qui est assez incroyable et qui est impressionnante. Et c'est ce qui est intéressant et ce que disaient les gens, en fait, les membres du jury. Et moi, je le vois, ça fait deux jurys qu'on fait ce prix, deux années. Je vois qu'il y a tout un lectorat plutôt jeune, qui a la trentaine, qui souhaite autre chose. Donc, qui souhaite des thématiques plutôt en lien avec le sociétal, qui souhaite des thématiques avec des femmes. Je ne citerai pas j'ai une BD dans la sélection qui s'est fait, mais atomisée, car les femmes étaient montrées comme la BD des années 90, donc alcoolo, gros seins, sexy, avec des poses un peu lascives. Ça ne passe plus du tout. On a une forme de bande dessinée à l'ancienne, à la papa, où je vois qu'il y a une génération de lecteurs et lectrices, ce n'est plus du tout possible. Et ça, c'est aussi intéressant. Il y a une demande. Alors, en ce moment, il y a un genre qui s'appelle le Hope Punk, qui est en train d'apparaître. C'est Becky Chambers, qui est un peu celle qui est en train qui a du succès avec, en tout cas, ses récits, qui sont souvent des novellas, et qui proposent des avenirs optimistes. Donc, ça aussi, il y a une demande de gens qui souhaitent aussi, des gens qui ne connaissent pas la SF, qui te disent, est-ce qu'on peut sortir un peu du post-apo, de la dystopie, de choses horribles? Est-ce que vous avez des récits optimistes qui parlent de l'avenir? Ça, c'est assez intéressant. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une demande des lecteurs quand même, oui, d'autres choses. Et je pense que les éditeurs commencent plus ou moins à s'en rendre compte, parce qu'on voit aussi apparaître une nouvelle génération d'artistes qui ne vont pas être des grands lecteurs et grandes lectrices de SF. Lisa Blumen, je l'ai interviewée, elle me disait qu'elle ne lisait pas beaucoup de SF à part Ursula Le Guin, mais par contre, pour elle, la SF est un moyen de pouvoir parler du présent. Et du coup, ça aussi, c'est assez fascinant. Quand on regarde, on a beaucoup d'auteurs des années 90 qui étaient là plutôt pour reproduire les grands films de SF, Star Wars, Blade Runner, voilà, qui étaient mordus de ça. Et ça a fait des BD très genrés, très série B. Et là, on a eu toute une nouvelle génération qui s'empare de la SF. C'est pas des spécialistes, mais par contre, la SF est un moyen de parler du présent. Donc ça, c'est assez intéressant.
Hugo ?
On a cité tout à l'heure Y, le dernier homme. Et c'était une série qui a été très en avance sur ces questions-là. Très rapidement, la série commence en 2006, je pense, donc de Brian Vaughan et Pia Guerra au dessin. Et on est dans une société où, d'un coup, une nuit, tous les hommes de la planète décèdent d'une maladie inexpliquée.
Le lendemain, il y a une énorme fête.
Et bien justement, à l'exception de notre protagoniste, Yorick, et on suit le lendemain de cette société, désormais sans hommes. Alors, c'est un traitement qui est très intéressant parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un pitch tel quel sans parler de patriarcat, sans parler d'inégalité professionnelle, salariale et plus globalement de domination patriarcale. Pour autant, c'est une série de 2005, donc évidemment, elle a pris un petit coup de vieux. Moi, je l'ai relu récemment et j'étais un peu surpris. Mais on sent que c'est une série qui a marqué son temps. Et nous, par exemple, on sort en avril Once Upon a Time at the End of the World, de Jason Aaron et au dessin Alexandre Tefenki, où on suit dans un futur post-apocalyptique un duo de personnages, Maisie et Mace, que tout oppose, un futur ravagé par des océans de plastique, des déserts radioactifs, des rats mutants, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, et qui vont devoir notamment...
Alors les rats mutants, moi, j'ai pas forcément des préjudices.
Ils sont très présents chez iComics, notamment.
Oui, non, mais des fois, ils peuvent aussi être des pères adoptifs de Tortue Ninja dans les égouts. Et je veux dire, j'ai pas envie de mettre tous les rats mutants dans le même sac.
Ceux-là ne font pas de Kung Fu, donc rien à voir.
Ça, alors. Peut-être le Kung Fu qui...
qui non, mais je cherche
quand même à faire un distinguo, c'est attention. Et les rats mutants qui nous écoutent...
Et dans ce futur et ce duo que tout oppose, on va notamment voir apparaître nos antagonistes, il y a une forme de secte de scout survivaliste, masculiniste, catholique intégriste, enfin, du moins chrétien intégriste. Et c'est une série...
C'est mes cousins. Excusez-moi,
je vous en prie. Et c'est une excellente série qui aborde toutes ces thématiques et on sent que c'est une série qui est très moderne et très contemporaine parce qu'elle introduit justement tous ces éléments d'écologie, de féminisme et de nombreuses luttes très actuelles sans pour autant en faire un propos. On sent que c'est quelque chose qui est très intégré à l'œuvre, très intégré aux réflexions de l'auteur. C'est une série qui en tout cas moi est un coup de cœur de ce début d'année. Et la suite en VO s'annonce très 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 bonne aussi.
Donc ça sort en avril.
Ça sort en avril, Once Upon a Time at the End of the World. C'est un titre qui est pas facile à retenir. Once Upon a Time at the End of the World. Et ouais, de mon côté en tout cas, c'est un gros coup de cœur et qui montre justement dans ces thématiques post-apocalyptiques que c'est tout à fait possible d'introduire ces sujets. Et sans pour autant, sur une question précédente, que ça fasse de remous terribles.
Et on a parlé de beaucoup de titres d'anticipation. Est-ce qu'il y a une différence entre l'anticipation à l'américaine et une anticipation à l'européenne, Maximilien?
Alors, je pense qu'il y en a une dans la narration. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, sur la parution américaine qui est en issue, donc des petits mensuels. Ce qui, à mon avis, oblige les auteurs à soit parfois combler, soit parfois devoir faire un fil rouge atténué par des histoires secondaires qui viennent, alors, densifier le récit, parfois en bien ou en mal, parfois faut savoir s'arrêter. Et alors qu'en France, c'est des productions, alors aussi en tome maison, mais où l'attente se fait plus longue. Parfois, ça peut mettre un an ou deux avant que le tome paraisse. Et donc, la densité de la narration, du récit, est beaucoup plus en bloc. Elle fait plus sens autour du personnage principal. Elle est plus resserrée. Et c'est pour ça qu'on obtient des intégrales ou des tomes complets avec donc une histoire qui se tient de bout en bout. Qui va pas forcément trop s'étendre autour des personnages secondaires, aller trop loin dans l'univers, densifier trop l'univers. Alors qu'aux États-Unis, avec ces parutions, c'est ce qui arrive un peu souvent.
Une décompression plus importante.
Ouais, il s'éparpille un peu plus, on va dire.
Lloyd ?
Ouais, je crois que la grande différence, c'est les enjeux. C'est compliqué, enfin un bon récit c'est à des bons enjeux et c'est vrai qu'on reçoit dans tout ce que je lis en BD franco-belge, je précisais, il y a beaucoup de BD où il y a pas beaucoup d'enjeux et en fait on s'en fout quoi, enfin tu lis la BD c'est sympa mais il y a pas d'enjeu émotionnel. Le fait que nos amis ou nos confrères américains ou anglo-saxons sont dans quelque chose lié avec la revue où tous les mois ils doivent donner un nombre de pages avec un début, milieu, fin et avec ce côté
cliffhanger
revenait au mois prochain, fait qu'il y a une efficacité de la narration. Moi j'ai été là, je sors bientôt une bande dessinée chez Casterman qui s'appelle Vertigeo et j'ai été hyper influencé par le découpage américain, donc le fameux découpage 3 bandes et les fameuses pleines pages. Et en fait je vois plus je vieillis, plus je lis des bandes dessinées, je me rends compte que le comics américain a cette force évocatrice dans ces découpages et ces cadrages où il y a vraiment des pleines pages de personnages qui dégagent quelque chose. Et par exemple le manga a une force de vitesse, une vitesse d'action, une vitesse de propos, une façon de raconter et de découper un scénario qui est très fort. Et c'est vrai que nous en franco-belge on est assez classique et il faut arriver aussi à se réinventer, c'est pas toujours évident, mais heureusement je pense qu'on est de plus en plus, il y a toute une génération qui est inspirée par ces lectures là on a parlé de Mathieu Babelais, ouais, on voit que label, ça respire le comics, le label, ouais, lui, ça respire le manga,
un mot doux, il a un repos,
en tout cas ses influences se font ressentir
et ça se ressent
et elles sortent de partout, ouais.
Mais je pense que là le vrai problème c'est une efficacité de narration. Et puis bon, après ce qui est plus facile aussi chez nos amis anglo-saxons, c'est qu'ils sont massivement distribués partout. Nous, pour qu'un roman à succès français devienne un succès aux États-Unis, c'est rarissime. Les Furtifs ou La Horde du Contrevent, qui est un des romans de SF les plus populaires en France, n'est toujours pas traduit.
Et s'il y a un élément qui me semble aussi être très américain, en tout cas, c'est dans les thématiques abordées. Ce qui me semble qu'une des grandes... Une des grandes crispations de l'anticipation à l'américaine, c'est la question de l'échec du rêve américain, dont on parle souvent, la destinée manifeste, une espèce d'éthique de travail, la croyance en... donc la destinée manifeste, que quelque part la religion, si on est quelqu'un de bon et qu'on fait du bien, c'est forcément qu'il va nous arriver du bon. Et donc,
la méritocratie religieuse.
Finalement. Et c'est vraiment, on sent quelque chose chez les auteurs américains, et donc qui est propre souvent au comic book, c'est précisément d'arriver à un moment où on démontre que non, ça ne marchera pas, que les premiers effets sont déjà présents et qu'ils vont continuer à s'aggraver. Et Prez, c'est un bel exemple chez Mark Russell, puisque au centre même de tout idéal, c'est la démocratie. Et il arrive à montrer par l'absurde que non, quelque part, l'engrenage est cassé et qu'il faut quelqu'un. Et en même temps, c'est riche en espoir, il me semble, une œuvre comme Prez, puisque c'est quelqu'un qui va vouloir changer de tout de l'intérieur. Donc, c'est pas que c'est impossible, c'est que l'engrenage est cassé.
Ça m'a fait penser à l'adage « tout le monde pensait que c'était impossible et il est un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. » Et je trouve que c'est ça, en fait. On en revient toujours à ce débat éternel. Est-ce qu'il ne faut pas et choisir nos représentants via une loterie citoyenne
C'est vraiment ce genre de question que
je dis ça comme ça.
Il y a une nouvelle d'Asimov, d'Isaac Asimov, bien joué Fred, qui s'appelle « À voter », et c'est totalement ça le pitch.
Mais oui.
Voilà.
Je pense que c'est une question qui agite la démocratie depuis le commencement. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas éviter les politiciens de métier ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Et alors, j'ai une question la plus vernaculaire, ce sera la dernière question, et là, je m'adresse à Hugo. Comment faites-vous devant ces tonnes et ces tonnes d'œuvres très intéressantes du marché américain pour choisir, vous, à Urban, quel titre adapter et proposer au lectorat français ?
Ce sera une réponse en deux temps. La première, c'est, je l'évoquais plus tôt, mais on a la chance d'avoir un catalogue d'ici Vertigo qui a été très prolifique en termes d'œuvres d'anticipation. Donc, c'est des œuvres qui ont déjà été publiées pour la plupart. Il reste quelques oubliés. Je cite moi souvent Unfollow, qui est sorti en 2015, qui parle spécifiquement des réseaux sociaux. Mais dans l'ensemble, disons que Vertigo a trouvé sa place en France. Et aujourd'hui, la question, ça va être la question des rééditions, notamment. La réédition, et vous savez, il y a le grand format Urban qui a été inauguré il y a quelques années maintenant et qui trouve sa place notamment parmi les lecteurs et lectrices de franco-belge. Et ça, c'est une vraie frustration, c'est-à-dire qu'on a tout un ensemble d'œuvres qui sont des chefs-d'œuvre assez unanimes.
Il manquait juste 3 cm.
Ben, précisément.
Mais c'est terrible de se dire waouh, mais ce qui manquait à cette BD, c'est 3 cm.
Donc, c'est la première étape, c'est se poser la question.
Il y a énormément de pervers qui sont en train de dire c'est comme moi.
C'est pas la taille qui compte, c'est le vernis sélectif sur la couverture.
J'essaierai de le dire, je sais pas si ça va marcher.
Mais ça, c'est la première question, c'est-à-dire quelles sont les œuvres qui méritent d'être rééditées aujourd'hui pour trouver des nouveaux publics. Le dernier roman, Nomade, voilà, j'en parlais tout à l'heure, en format poche. Et la deuxième, c'est en effet une question de veille, et là ma réponse sera beaucoup moins intéressante peut-être, c'est de dire que tout simplement c'est une veille. Nous, on regarde tout ce qui se fait sur le marché du comics, et la question, c'est toujours une question de qualité de narration, une question de d'impact visuel. Évidemment, il y a des œuvres qui vont nous parler. Également en avril sort Snow Angels de Jeff Lemire et Jock. C'est un vrai parti pris visuel. Des planches très dures et un environnement disons d'hiver éternel qui sont très intéressantes. C'est un parti pris visuel, cette œuvre. Presque, en tout cas de mon opinion, presque plus qu'un parti pris de scénario. C'est une veille d'œuvres qui vont nous parler, d'œuvres qui vont nous sembler très contemporaines, des choses qu'on aurait pu rater mais qui aujourd'hui prennent notre écho. Je parlais d'Unfollow, pourquoi pas. La question du numérique et des réseaux sociaux, elle était ce qu'elle était en 2015. 9 ans plus tard, Unfollow parle à l'époque de Twitter, à l'époque du X de oui. Elon Musk. Je pense que c'est une œuvre qui prend une
beaucoup
nouvelle
d'œuvres qui parlent de Facebook, alors que désormais on sait que Facebook c'est un réseau social pour personnes âgées.
Ouais, malheureusement, j'y suis régulièrement. Mais voilà, donc Urban ne se ferme à rien en termes d'anticipation. Et on a de la chance parce que c'est un genre qui a le vent en poupe et qui continue de produire chaque mois des récits qui, en tout cas, nous convainquent totalement.
Ouais, j'ai une question. David. Est-ce que il n'y a pas une envie ou une tentation de... vouloir faire appel à des... vous le faites sur certaines franchises, mais de vouloir faire appel à des auteurs français pour créer un espèce de label urbain, mais produit à la production franco-belge, entre guillemets, avec de la créa française, francophone. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça?
Un label qui s'appellerait BD Urbaine.
Ce serait le nom, en tout cas, est noté dans un coin de tête. C'est des questions auxquelles...
Ah, j'ai des fulgurances comme ça. Hein,
C'est le métier.
Ouais, bah, la prochaine fois, c'est dans 5 ans.
C'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Nous, on est concentrés sur le marché du comic book hein, en tant qu'Urban Comics. Et je disais, il y a quand même une production aujourd'hui qui est ce qu'elle est et qui permet de largement de trouver ce qui existe en termes de veille. Mais évidemment que c'est des questions qui existent, des questionnements, parce que, et on a eu évoqué beaucoup d'auteurs de bandes dessinées françaises au long de ce podcast, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de talent dans l'anticipation franco-belge, mais plus globalement de bandes dessinées européennes. Donc évidemment que c'est des questionnements qui sont super intéressants.
Merci Hugo.
Merci à vous.
Merci Loïc Thierry.
À plus Fred.
Merci Maximilien.
Merci.
Et j'aimerais évidemment remercier très chaleureusement Arnaud Tomasini, qui était là, qui a veillé au bon branchement de mon micro, et qui nous a fait visiter son appartement, ce qui nous a permis d'avoir l'air beaucoup plus
grand appartement, hein, dis donc.
Grand
Arnaud,
appartement, énorme.
Ça marche les podcasts, hein.
Ouais, c'est
passer à la boutique de souvenirs en sortant.
Je rappelle qu'il est le rédacteur-chef de Comics Blog et créateur du podcast Excellent First Print, que je vous invite à écouter également, tout comme C'est plus que de la SF, animé par Loïc Thierry. Et tant qu'à faire, si vous allez à Pau, il faut aller voir la librairie Bachibouzou.
On a aussi un petit podcast sans prétention, le Bachicast.
Voilà. Et le Bachicast, allons-y. Non, mais là, on est en train d'occuper toute vos
semaines. L'espace médiatique.
Voilà, allez-y. Et on se retrouve donc dans un mois pour le crossover épisode 5 déjà, qui aura pour sujet un cavalier qui surgit hors de la nuit. Zorro, eh oui, Zorro, sans qui Batman ne serait absolument rien. Donc la prochaine fois, on parle de Zorro.